Nous sommes en train de travailler dans la zone des Abéché et dans la zone de Gosbeïda. Dernièrement, il y a un mois et demi, bon, et nos équipes ont dû se replier par prudence parce qu'il y a eu des attaques dans la zone de Koukou. C'était grave, c'était sérieux. Il y a eu 100, 150 morts et ça a provoqué encore le déplacement de quelques 15-20 000 personnes. Quant aux personnes qui les provoquent, c'est plus difficile de les discerner. Ceux qui ont attaqué dernièrement, les camps où nous sommes présents, ce sont des gens jaouites et certainement des Arabes. Certainement que bon, les gens qui ont été attaqués, ce sont des Dadjo, donc ce sont des gens qui habitent dans cette région du Guéra, dans cette région du Tchad. Ça, c'est quelque chose d'objectif.
Comment faites-vous pour travailler dans cette zone aussi instable où les attaques sont fréquentes? Comment réussissez-vous à apporter de l'aide à ces réfugiés?
La mission du JRS, c'est d'accompagner les réfugiés, les déplacés, c'est-à-dire accompagner, ça veut dire rester tout près d'eux et passer du temps avec eux, alors en asservissant certainement et dans la mesure du possible en défendant leurs droits humains. Notre objectif, c'est de pouvoir le faire là où il n'y a personne qui le fait. D'ailleurs, nous ne cherchons pas du travail et nous ne cherchons pas à mettre notre fanion dans des postes. Si nous voyons qu'il y a des collègues qui font ce travail comme il est habituel de le faire convenablement, bon, nous, on n'y va pas. Si on y va, c'est parce que, bon, suite à certains types de circonstances, et solitude, difficulté pour atteindre les lieux, insécurité, et nous sommes là. Alors, ce qui nous interpelle, c'est de voir qu'il y a quand même des populations qui ont été déracinées, qui sont abandonnées à elles-mêmes. Pour nous, ça, c'est déjà un motif pour pouvoir réagir. Alors, bon, et en fonction de cela, évidemment, nous ne sommes pas une ONG avec des moyens logistiques énormes, mais en discernant et en écoutant les réfugiés et en les écoutant, nous essayons de répondre à leurs besoins, aux besoins qu'ils nous proposent. Et à partir de ce moment-là, il y a déjà comme une certaine entente, une certaine complicité dans laquelle, bon, on se rend compte que et si eux, ils sont dans l'insécurité, nous pouvons partager cette sécurité avec prudence, évidemment, parce que nous ne sommes pas des kamikazes, nous ne sommes pas des aventuriers non plus. Mais nous considérons que, et tant que les raisons sécuritaires et de travail le permettent, nous restons là-bas, en sachant qu'il y a un certain impôt d'insécurité à assumer.
Comment voyez-vous l'avenir? Est-ce que vous sentez vraiment qu'une plus grande implication de la communauté internationale est absolument nécessaire pour résoudre le problème, au moins du point de vue de la sécurité?
Je pense que les problèmes du Darfour et les conséquences que cela provoque dans les pays environnants, c'est une situation qui va durer. Donc je ne vois pas une solution à court terme. Et je pense que malheureusement, ces populations sont engagées dans une aventure de souffrance à long terme. D'abord parce que, problème complexe, il y a certainement des raisons de type économique. Finalement, donc, il y a beaucoup de pétrole et il y a un choc d'intérêt d'un côté, la Chine ou la Malaisie, des pays d'Occident qui sont là et chacun essaie de tirer la couverture de leur côté. Il y a aussi des tensions au niveau des groupes humains, d'appartenance, des groupes humains qui souhaitent consolider leur identité et leur appartenance, leurs racines. Mais il y a aussi là un élément culturel important, l'impact religieux, l'islam pour ne pas le nommer. Mais il y a là un ferment culturel extrêmement important et qui essaye un peu à se répandre, qui cherche une certaine expansion dans les milieux environnants. Et toutes ces choses-là, manipulées les unes par les autres, ça fait un cocktail qui serait très, très difficile à arranger.